Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, ce n'est pas un homme politique, mais cela fait des décennies que ses idées, ses textes, ses engagements comptent dans le débat public. Il livre sa vision du monde dans un essai qui paraît. Le philosophe Bernard-Henri Lévy publie L'Empire et les Cinq Rois chez Grasset et il viendra nous rejoindre dans une poignée de minutes. Vos questions, vos commentaires sont les bienvenus. Pour intervenir, vous connaissez le mot-clé Question Paul.
France Inter, Questions politiques. Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe du dimanche, le club de lecture de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour.
Rapide tour de table avant d'accueillir Bernard-Henri Lévy. Qu'avez-vous retenu de l'actualité de la semaine? On va démarrer avec vous Nathalie.
Eh bien écoutez, moi je vais célébrer la vertu du en même temps macroniste, notamment parce que je m'en suis souvent beaucoup moquée. Et à propos notamment du discours hommage mercredi au colonel Arnaud Beltrame. Il a évoqué beaucoup le retour du patriotisme, employé le mot soldat. Et puis c'était différent des discours qu'on a pu avoir après l'hypercacher, après le Bataclan et ou après les Charlie Hebdo. Parce que c'était pas simplement rendre hommage à des gens qui étaient là, qui ont subi, ceux qui ont voulu continuer à vivre à aller en terrasse, mais ceux qui ont choisi. Alors, il y a eu quelques échanges dans la presse avant cet hommage, entre savoir si c'était sa foi chrétienne ou s'il était maçon, qu'est-ce qui avait été déterminant. Et puis finalement, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a une espèce de synthèse entre toutes ces choses-là, montrant que le patriotisme, c'était pas de droite ou de gauche, ou chrétien, ou laïque, ou je sais pas quoi. C'était probablement tout ça en même temps. Et là, pour une fois, c'est très bien. On a cité De Gaulle, on a cité Pierre Brossolette, on a cité Jeanne d'Arc, on a cité les Maquisards. Donc pour quelqu'un à qui on reproche de temps en temps de faire partie de l'élite mondialisée, qui n'aurait pas cette espèce de sens de la patrie, ou alors le roi du CAC 40, eh ben écoutez, cette fois-ci, j'ai trouvé que son discours était assez remarquable. Et puis, justement, pouvant non pas fermer, employer un terme très mal élevé, donc
allez-y,
faire taire un petit peu Laurent Wauquiez qui parle de la naïveté, parce qu'il a nommé la chose, il a parlé de l'hydre islamiste, il a parlé du terrorisme islamiste, il a fait le lien entre le colonel Beltrame et Mireille Knoll, donc il a nommé les choses, et là, on peut pas l'accuser de ne pas avoir été à la hauteur.
Françoise.
Alors pour prolonger cette journée, moi c'est le malaise que j'ai ressenti le soir lors de la marche blanche organisée en mémoire de Mireille Knoll, cette vieille dame poignardée puis brûlée, assassinée parce qu'elle était juive, comme l'avait dit un peu plus tôt le président de la République. La journée tout entière, et ça Nathalie l'a dit, avait été placée sous le signe de l'unité nationale avec cet hommage de la nation rendu aux Invalides, à Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel de gendarmerie qui avait donné sa vie pour sauver les otages de la tuerie de Trèbes. L'unité nationale, c'est un moment solennel, un moment rare. Un pays qui fait corps par-delà ses clivages politiques parce qu'il sent que l'essentiel est en jeu. Et le soir, brusquement, les ferments de la division ont ressurgi. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont dû quitter le cortège de la Marche Blanche parce que le président du Conseil représentatif des institutions juives, Francis Khalifa, avait jugé que ces deux partis n'y avaient pas leur place. Mais c'était une erreur car brusquement, la petite politique reprenait ses droits et symboliquement, cela donnait ceci. Un corps central avait le droit de manifester derrière les ministres tandis que ces deux partis extrêmes était tenu à l'écart, mis à l'index, exclu. Terrible l'image de la division qui affaiblissait de facto la lutte contre l'antisémitisme, ce combat multiséculaire et jamais réellement gagné.
Karine.
Alors moi, je vais parler aussi un peu de tout ça. Forcément, c'est quand même ce qui a marqué notre semaine. Mais je trouve qu'on a vécu en particulier plein de contradictions cette semaine au sommet d'État. D'un côté, effectivement, Emmanuel Macron, en rendant hommage au colonel Beltrame, a voulu célébrer, voire glorifier l'héroïsme pour la première fois. C'est vrai, en France, on a quelqu'un qui a osé se dresser contre le terrorisme. Autrement dit, les Français, grâce à lui, ne sont plus de simples victimes. J'ai envie de dire, ça y est, on peut devenir, on devrait même devenir des résistants face aux terroristes. Ça, c'était un discours, et je suis parfaitement d'accord avec Nathalie, extrêmement vibrant, même j'ai envie de dire, du président. Mais dans le même temps, on a redécouvert cette même semaine que dans nos banlieues, là où souvent germe le terrorisme, eh bien, que rien n'était fait, ou en tout cas, trop peu. Au point que même nos élus dans ces territoires déshérités, même nos élus les plus engagés, eh bien, sont en train de démissionner. C'est le cas du maire de Sevran, Stéphane Gatignon, qui a donc rendu mercredi son tablier, si je puis me permettre. Ce qui pose tout de même une question, c'est est-ce que nous devons effectivement devenir des résistants, mais donc les résistants d'une politique que la République n'a jamais osé, a toujours eu peur véritablement de mener ?
Merci Karine. Et qu'est-ce qu'il a marqué lui dans l'actualité de la semaine? On va le demander à notre invité, le philosophe Bernard-Henri Lévy. Il va venir s'installer dans le studio 221 de la Maison de la Radio. Venez nous rejoindre, Bernard-Henri Lévy. Bonjour et bienvenue. Le temps de vous installer. L'Empire et les Cinq Rois, c'est le livre que vous publiez. C'est à la fois le carnet de bord d'un explorateur engagé, ce que vous êtes, un essai sur le nouvel ordre ou le nouveau désordre du monde. On va en parler avec vous. C'est un livre de réflexion, de colère aussi. Et on va y revenir, notamment devant le sort fait aux Kurdes. Mais avant de rentrer dans cet essai, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Bernard-Henri Lévy, dans l'actualité de la semaine ?
La même chose, évidemment, l'héroïsme de Beltrame, la marche blanche. Mais je dirais, j'ajoute peut-être, dans la marche blanche, la présence, ça a été peu souligné, d'une vingtaine d'imams. Il y avait au premier rang de la marche blanche, entre les ministres, les anciens ministres, les Parisiens, les passants, il y avait une vingtaine d'imams venus représentant plusieurs mosquées françaises et qui avaient fait le déplacement. Et ça, j'ai trouvé que c'était un signe très fort. Ça veut dire, c'est le signe du fait qu'il y a enfin, dans ce pays, des grands musulmans fidèles au meilleur de leur foi qui acceptent et qui décident de se mobiliser quand l'antisémitisme frappe.
Et vous parlez justement de l'islam des Lumières, mais cette marche blanche avec Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, chahutée par des manifestants, quel regard avez-vous porté sur ces événements qui ont pu perturber la solennité du moment ?
Ça a perturbé la solennité du moment, c'était dommage, et c'était pas non plus très grave, parce que ce qu'il a emporté, c'est la Marseillaise à la fin de la manifestation, c'est la minute de silence magnifique et c'est la dignité de l'ensemble. Après, moi je suis d'avis qu'avec Mélenchon ou Le Pen, il fallait débattre durement la veille, il fallait reprendre le débat durement le lendemain, mais que le jour de la manifestation, on n'envoie pas des bristoles aux gens pour les y inviter. La rue appartient évidemment à tout le monde.
Bernard-Henri Lévy, vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Tout de suite, le zapping politique, il est signé Laurence Perron.
Temps politique suspendu mercredi matin, cours des Invalides, celui de l'hommage au colonel, à l'homme, Arnaud Beltrame, devenu héros français.
L'un d'entre nous venait de se dresser. Il faisait face à l'agression islamiste, face à la haine. Et avec lui surgissait, du cœur du pays, l'esprit français de résistance, cette détermination inflexible. Face au nihilisme barbare, convoqua aussitôt dans nos mémoires les hautes figures de Jean Moulin, de Pierre Brossolette, des martyrs du Vercors et des combattants du Maquis.
Temps républicain la veille, sur les bancs de l'Assemblée nationale, les mots de Jean-Luc Mélenchon, trêve d'opposition, au nom de la nation.
Le lieutenant-colonel Beltrame est un héros de la condition humaine. À notre tour de refuser à l'ennemi quelque victoire que ce soit, et d'abord celle de la division et de la polémique qui viendrait à nous déchirer. Monsieur le Premier ministre, nous sommes certains que vous, vos ministres et tous les services de l'État avez dans cette circonstance fait tout ce qui était en votre pouvoir du mieux que vous pouviez.
Tension, le CRIF interdit aux Insoumis et au FN la marche blanche en souvenir de Mireille Knoll, son fils s'insurge.
Le CRIF fait de la politique et moi j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à tout le monde, à tous ceux qui ont une mère, c'est-à-dire tout le monde. Tous les gens sont concernés. C'est insupportable aujourd'hui en France de savoir que quelqu'un peut mourir comme ça, de cette façon aussi affreuse.
Gros temps sur le pavé, Mélenchon et Le Pen exfiltrés de la marche blanche. Gros temps dans les facs à Montpellier, on expulse des étudiants à coups de batte de baseball. Gros temps à la SNCF, convergence des gauches, Besancenot, l'écologiste Cormand, les communistes, les insoumis et Benoît Hamon, bras-dessus, gare de Lyon.
Incroyable aujourd'hui que vous ayez le président de la SNCF qui dit on va relancer l'autostop. Mais moi j'ai pas envie que mes enfants fassent du stop alors qu'ils avaient des trains. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ?
Enfin, il était temps, un tout nouveau premier secrétaire socialiste qui entend bien faire sauter les clous du cercueil PS.
Vous connaissez cette phrase que l'on attribue à Blacq des Rumeaux, au monde du Front Populaire. Enfin, les ennuis commencent. Nous y sommes.
« Merci Laurence Perron. Le zapping se terminait sur une image d'Olivier Faure. On se souvient du livre que vous aviez publié, Le grand cadavre à la renverse. Vous étiez le médecin légiste du Parti Socialiste il y a déjà quelques années. Est-ce que vous pensez, Bernard-Henri Lévy, que ce parti est capable aujourd'hui de connaître une résurrection ?
Je ne le crois pas.
Non.
Non. Bah, non, je crois que la gauche n'est pas morte. Elle se reconstruira, mais autrement. Sûrement pas là.
Karine. Il y a encore quelqu'un qui incarne la gauche selon vous ou pas ? Même pas.
Il y a des citoyens, il y a des associations, il y a des militants, mais pas...
Il n'y a plus de politique qui incarne la gauche, selon vous.
Manuel Valls incarne quelque chose d'essentiel de la gauche, qui est l'esprit républicain et l'antitotalitarisme radical, et la laïcité. Voilà. Il incarne ces trois éléments qui sont essentiels dans le logiciel de la gauche de demain.
Est-ce que Emmanuel Macron incarne un peu de la gauche ?
Naturellement. Naturellement.
C'est quel héritage selon vous ?
Écoutez, la gauche, c'est des grands événements. Hein. C'est mai 68, c'est la décolonisation et c'est le Front populaire, la gauche française. La généalogie de Macron, elle est dans ces trois histoires-là. Il est un des hommes politiques que je n'ai jamais vu entonner l'ancienne sur mai 68, qui a démoralisé la société française. Il est dans la tradition anticoloniale, clairement. On le lui a assez reproché au moment d'un voyage en Algérie pendant la campagne électorale. Et puis, il est dans la trace réformatrice du Front populaire et de tout ce qui a suivi. Donc je crois que oui, il y a quelque chose en lui qui, même s'il dit qu'il est par-delà, qu'il est et la droite et la gauche, enfin c'est vrai, au fond. Il n'est pas ni droite ni gauche, comme les anticonformistes des années 30, qui n'étaient pas si anticonformistes que ça, qui sont vite devenus des gens beaucoup plus infréquentables, mais il est et droite et gauche. Il y a un vrai lignage de gauche qui s'incarne en lui, ça je le crois.
Nathalie Saint-Cricq.
Emmanuel Macron a reçu les combattants kurdes pour lesquels vous militez. Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous trouvez que finalement c'est un petit geste ou un gros geste ? On a cru comprendre que c'était un soutien, mais que c'était pas plus. En gros, est-ce qu'on fait suffisamment ou est-ce qu'on est toujours otage de Erdogan, que vous nommez dans votre livre le concierge des portes de l'enfer ? En clair, à partir du moment où il nous tient avec les migrants, avec les réfugiés, on ne fait rien contre lui et on ne fait pas plus pour les Kurdes.
Il nous tient pas seulement les réfugiés. Il y a ça, bien sûr. Erdogan, aujourd'hui, concierge les portes de l'enfer. En effet, c'est ma formule. Mais il y en a une autre, c'est que c'est un braqueur. C'est un maître chanteur. Hein, ça s'appelle du chantage. Ça s'appelle une prise d'otage. Et il y en a deux des prises d'otage. Il y a les réfugiés. Il dit « retenez-moi où je fais un malheur ». Comme faisait Kadhafi, d'ailleurs, pendant 40 ans. Chaque année, au mois d'août, il se réunissait avec les Européens et il disait « je tiens mes frontières, mais c'est temps ». Mais il fait autre chose. Il y a une autre phrase que je cite dans mon livre et que tout le monde a oublié, c'était il y a exactement un an. Le 22 mars 2017, au pic de sa polémique avec Angela Merkel, qui avait interdit deux meetings de ses ministres sur le territoire allemand, il avait prononcé cette phrase. « À partir d'aujourd'hui, chaque Européen doit savoir qu'il ne pourra plus se déplacer en sécurité dans aucune ville d'Europe ou dans aucune ville du monde. Tous les Européens doivent savoir qu'il n'y a plus une rue des villes du monde où ils pourront se déplacer en sécurité. » Ça s'appelle quoi ? Erdogan, ce jour-là, il a fait un appel au meurtre terroriste. Il a prévenu les Européens, éventuellement d'accord avec Madame Merkel, qu'ils étaient en danger partout. Ça veut dire quoi ? Sinon, ce que je viens de dire. Donc c'est ça, Erdogan, et c'est ça le chantage qu'il fait peser sur l'Occident. En face de ce chantage, évidemment qu'on ne fait pas assez sur les Kurdes. Mais Macron est le seul, la France est la seule à faire. Pas assez, mais elle est la seule à faire. La seule à recevoir le Premier ministre du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, et la seule à recevoir les représentants du Kurdistan syrien, les représentants du Rojava, il y a trois jours. C'est pas assez, mais... c'est pas rien.
Voilà. On va y venir, mais pas de nouvelle opération militaire française prévue. L'Élysée a affirmé vendredi que la France ne prévoyait pas d'intervenir dans le nord de la Syrie pour venir en aide aux Kurdes, justement, et en dehors de la coalition internationale contre l'État islamique.
Hélas, mais on est vraiment dans l'état du monde que je décris dans ce livre.
C'est-à-dire une Amérique qui a décidé qu'elle se lavait les mains de tout ça, que ça ne la concerne plus, qu'elle s'intéresse aux GAFA, qu'elle s'intéresse à prendre le contrôle du maximum d'âmes dans le monde, mais que les droits de l'homme, le sauvetage de ses alliés, la défense de ses valeurs, la défense de la démocratie, elle s'en tape. Parce que
et c'est pas une bonne nouvelle. On vous répondra, Bernard-Henri Lévy, qu'au fond... Tant mieux que les États-Unis n'interviennent plus, et notamment dans cette région du monde, depuis qu'ils sont intervenus en Irak, depuis qu'ils sont intervenus en Afghanistan. C'est un désordre absolu.
Il y a manière et manière d'intervenir. Et il y a manière et manière de ne pas intervenir. Aujourd'hui, Trump a déclaré, la veille du jour où Macron a reçu les Syriens, il a dit « Je me retire dans les plus brefs délais de Syrie ». Ça veut dire quoi, se retirer de Syrie? Ça veut dire un pays... vidanger de sa population, ça veut dire 500 000 morts, ça veut dire des millions de réfugiés, ça veut dire une destruction totale, ça veut dire un pays livré à la tenaille des deux forces horribles que sont Bachar al-Assad et Daesh. Voilà. Donc l'Amérique est un empire d'une puissance. L'Amérique n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui et elle n'a jamais été aussi indifférente au sort du monde qu'aujourd'hui. C'est ça le paradoxe.
Mais l'Amérique a quoi à gagner en fait d'intervenir en Syrie? Parce que l'Amérique a toujours intervenu partout quand ses intérêts étaient à défendre. Elle n'a pas que vendu sa liberté et la démocratie.
Pas toujours, justement. Je crois qu'il est arrivé à l'Amérique d'intervenir ou de mener une politique qui n'était pas uniquement dans le sens d'intérêt. Il y a une grande tradition en Amérique qui s'appelle le wilsonisme, hein, du président Wilson, 1918, etc. Ça veut dire, certes, défendre ses intérêts, comme le veulent les Hamiltoniens ou les Jeffersoniens, mais aussi penser que la démocratie mérite d'être défendue et d'être promue, qu'on peut...
Donnez-moi un exemple d'un endroit où elle est intervenue.
Mais il y a manière et manière. Par exemple, pendant les années de la guerre froide, il y avait des radios, il y avait des Radio Free Europe, il y avait un soutien plus ou moins discret ou plus ou moins voyant à ceux qu'on appelait les dissidents. L'Amérique n'a jamais lâché.
Et il y avait en même temps, là aussi, la CIA, des opérations clandestines pour armer tous ceux qui voulaient se battre contre les communistes. Il y a toujours eu cette ambivalence, Bernard-Henri Lévy.
Il y a toujours eu cette ambivalence, mais il y a toujours eu... En Amérique, l'Amérique n'est pas un pays d'ange, évidemment. Et puis il y a eu le Chili, qui est une tache sur l'histoire américaine. Et puis il y a eu le soutien aux généraux argentins. Je m'en souviens, j'ai fait un reportage à l'époque en 1977, bien sûr. Mais il y a eu cette idée, dans l'idée de l'Amérique gendarme du monde, il y avait aussi cette idée qui fait partie du credo américain, de la cité rayonnante en haut de la colline. Ça fait partie de la légende américaine et de la croyance américaine, défendant les valeurs démocratiques quand elle le peut.
Avant votre portrait, Bernard-Henri Lévy, une question de François.
Oui, juste pour prolonger, parce que en fait, il y a eu des périodes aussi où les États-Unis ont été complètement isolationnistes. Ils n'avaient pas envie de se mêler des affaires du monde. Ça a été le cas avant les deux grandes guerres mondiales. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a un vrai tournant? Vous mettez en cause aussi Obama en disant finalement Obama et Trump, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de lâcher les affaires du monde. Est-ce que vous pensez que c'est irréversible ou que c'est un moment de l'histoire?
Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est une tendance lourde. Et en effet, même si je n'ai pas l'ombre d'une indulgence pour Trump et qu'à l'inverse, je trouve qu'Obama a été un grand homme, bien sûr.
Mais vous êtes dur avec lui.
Bah oui, vous l'appelez le sémillant Obama, comme s'il était... Oui, on pouvait le résumer.
Vous les mettez dans le même sac quand même tous les deux, et Obama et Trump.
Pardon ?
Vous les mettez un peu dans le même sac au final,
Obama et Trump. Sur un point, c'est-à-dire sur cette question de se laver les mains... De la chair et du sang des peuples qui se réclament des valeurs américaines ou européennes, donc démocratiques, leur indifférence à ça, oui, dans le même sac. Parce que Obama, rappelez-vous, 29 août 2013,
la Syrie.
En Syrie, il avait dit à une ligne rouge qui est l'utilisation des gaz chimiques. Si les gaz sont utilisés, j'interviendrai. Les gaz sont utilisés, il fait quatre fois le tour du jardin de la Maison-Blanche et finalement, j'interviens pas. Je dis que ce jour-là, il y a eu un signal qui a été envoyé à tous les gazeurs de la planète, qui a été envoyé à tous les despotes, qui a été envoyé à ceux que j'appelle les cinq rois, et le signal leur disait, pouvez y aller les petits gars, permis de tuer, permis d'avancer, la brèche est ouverte.
Obama a envoyé, hélas, ce signal-là. Et Trump l'a envoyé à sa manière à lui, qui est vulgaire, qui est grimaçante, qui est analphabète, mais en effet, c'est le même signal. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps et dont on est en train de voir l'aboutissement. Moi, ma théorie dans le livre, c'est que le problème, c'est pas Trump ou Obama, le problème, c'est Virgile.
On va y venir justement. Voilà. Ne déflorez pas le sujet. Ne spoilez pas, comme on dit, la suite de l'émission Bernard-Henri Lévy. Vous êtes l'invité de Questions politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Et avant de plonger dans l'analyse que vous faites dans l'Empire et les Cinq Rois, votre portrait, s'il est signé Karine Bécard.
Bernard-Henri Lévy, il m'a vite semblé difficile, pour ne pas dire totalement impossible, de résumer en une vingtaine, en une trentaine de lignes, votre vie. Surtout que beaucoup de choses déjà ont été dites ou écrites. Et je ne me voyais pas, moi aussi j'ai mes excès de fatuité parfois, je ne me voyais pas être seulement là pour simplement condenser tout cela. Parlons donc de politique, Bernard-Henri Lévy. C'est tout de même le thème essentiel de cette émission et vos fidélités successives dans ce domaine révèlent peut-être finalement assez bien qui vous êtes. Un Mitterrandien pour commencer. Enfin non, c'est plutôt François Mitterrand qui a été bluffé presque instantanément par le jeune normalien. Au point que le premier secrétaire du PS vous nomme très rapidement, vous avez 24 ans seulement, comme l'un de ses plus proches conseillers. De là pour vous à devenir député, vous n'avez pas longtemps hésité, vous avez failli être candidat à Coutances dans la Manche, mais le philosophe engagé Bernard-Henri Lévy, que vous vous piquiez à l'époque d'être déjà, n'était même pas inscrit sur les listes électorales pour éventuellement mener le combat. Peu importe. Quand 20 ans plus tard, vous suggérez au président Mitterrand d'aller en pleine guerre à Sarajevo, il s'y rendra. Mais cela ne vous empêchera pas, vous ensuite, d'aller papillonner autour de son nouveau Premier ministre. Édouard Balladur vous sollicite, vous vous sentez flatté, alors forcément, vous y allez, vous ne résistez jamais, Bernard-Henri Lévy, au pouvoir d'influencer. Mais après avoir susurré à tant d'oreilles, à celle de François Hollande, celle de Nicolas Sarkozy aussi, même s'il n'a sans doute pas été très compliqué de le persuader d'aller en Libye pour écraser Muammar Kadhafi, après avoir manœuvré auprès de tant de dirigeants, vous n'aurez été, en somme, le vrai conseiller de personne, celui qui informe, celui qui bâtit, celui qui façonne. Alors, homme de gauche, vous vous revendiquez, plutôt strauss-kahnien, converti un temps au royalisme, ce qui vous rend dans les deux cas parfaitement compatible avec le macronisme. Seulement, vous apparaissez réservé sur le nouvel hôte de l'Élysée, qui vous a certes déjà invité, mais qui pourrait s'avérer, et vous n'y êtes pas habitué, moins enclin à vous écouter.
Réaction ?
Oui, non. Mais
le portrait est juste et fidèle ?
Fidèle, non. C'est juste, non.
C'est le propre de tous les portraits.
Il n'est pas faux. Non, non. Mais sauf que. Non, attendez. Ce qui est vrai, c'est que je n'ai jamais été le conseiller de personne. Oui, vous dites façonné, etc. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis un lanceur d'alerte intellectuelle. Moi, ce qui m'intéresse, quand j'écris pas des livres, ce qui est l'essentiel de ma vie quand même, hein, c'est 95% de ma vie. Mais le reste du temps, vous savez, la fameuse phrase de Barrès, on lui demandait pourquoi il était député, il disait, comme on ne peut pas écrire toute la journée, il faut bien aller à l'Assemblée l'après-midi. Bien. Donc j'ai 5% de mon temps où je fais mon job de lanceur d'alerte. Donc c'est vrai que ça soit Mitterrand, que ça soit Macron ou que ça soit Sarkozy, s'il y a quelque chose qui me semble très important, ben voilà, j'use de mon droit républicain, de citoyen, de lanceur d'alerte.
De votre influence.
Pardon. Oui, voilà, vous
donc de l'influence que je peux avoir, naturellement. Et quand le président Macron m'a invité dès le mois de juin dernier,
juillet,
à l'Élysée pour lui montrer ainsi qu'à quelques personnes de son entourage la bataille de Mossoul. Bataille de Mossoul, que j'avais tourné pendant la prise de la première moitié de la ville. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous avez été flatté. Vous avez
mais
été
pas flatté.
Depuis ou pas?
Mais pas flatté. J'ai pas été. Non, je suis
c'est
pas.
C'est la deuxième question qui m'a.
Mais je suis trop vieux pour être flatté par ça.
D'accord.
Je n'ai pas été flatté. Okay. J'étais content. J'étais content de pouvoir amener avec moi le Sirwan Barzani, qui était un des combattants les plus héroïques, qui est un général, qui est un colonel Beltrame kurde, j'étais content de pouvoir le faire entrer avec moi à l'Élysée. J'étais content de pouvoir montrer à ce président nouvellement élu l'héroïsme des Peshmerga. J'étais content de lui montrer comment, à l'époque où le monde entier se carapatait devant Daesh, il y avait des gars qui faisaient front et qui, comme le colonel Beltrame, le désormais colonel Beltrame, prenaient le risque suprême qui est le risque de leur vie,
pour nous défendre et pour faire qu'il y ait moins d'attentats terroristes sur notre territoire. J'étais content, pas flatté.
Françoise Fressoze, puis Nathalie Saint-Fric.
Vous mettez en avant votre rôle de lanceur d'alerte, mais c'est au fond assez désespérant dans le monde que vous décrivez, parce qu'au fond, il n'y a pas de chapitre sur la France dans votre livre. La France, vous saluez certaines de ses actes, notamment par rapport aux Kurdes, mais qu'est-ce qu'elle peut dans ce monde où finalement tout semble lui échapper ?
Valérie Lévy.
Ça lui échappe pas tellement. Parce que ce que je dis aussi dans le livre, c'est que dans quelques-uns des grands rendez-vous récents, la France a quand même été en première ligne. Elle était en première ligne au moment de la guerre de Bosnie. Quand le monde a fini par intervenir en Bosnie, c'est-à-dire par arrêter le massacre, c'est la France, Chirac, qui était en première ligne.
On est avant les années 2000.
Avant les années 2000.
Voilà, il y a 25 ans.
La guerre de Libye, c'est la France qui était en première ligne pour empêcher le bain de sang à Benghazi.
C'est vrai qu'on en reparle.
On va y revenir, justement.
On en reparlera si vous voulez. La Syrie, François Hollande était en première ligne.
Obama qui décide de ne pas intervenir.
Voilà. Mais donc la France, en tout cas, elle a un rôle moral. Et aujourd'hui, cette histoire kurde qui, en effet, me brise le cœur, le seul pays, ça c'est ma thèse et ma conviction, je ne dis pas ça parce que je suis un patriote aveuglé, le seul pays qui peut entraîner le reste de la communauté internationale, je continue de penser que c'est la France. C'est pour ça que c'était tellement important que le président Macron rencontre il y a 3 jours ses représentants du Rojava.
Même après 7 ans, même alors qu'on a l'impression que les jeux sont faits, que finalement tout le monde a perdu de ceux dont vous avez partagé le combat en Syrie.
Les jeux sont, Ali Badou, les jeux sont jamais faits. Ça c'est vraiment une chose que ma génération a appris, pardonnez-moi, mais l'âge finit par vous apprendre 2-3 trucs, les jeux sont jamais faits. Il y a 3 erreurs dans la philosophie de l'histoire. Il y a ceux qui pensent que le progrès est infini, qu'on va forcément vers le mieux, c'est en gros les Hegeliens. Il y a ceux qui pensent que le déclin est irréversible, c'est en gros les Spengleriens. Puis il y a ceux qui pensent que c'est l'éternel retour, c'est le troisième grand modèle, qui est le modèle de cet Italien qui s'appelait Vico. Hegel, Spengler, Vico. Je pense que les 3 se trompent, que les 3 ont écrit des grands livres, mais c'est des livres faux. Parce que la vérité, c'est qu'il suffit d'un accident, ou il suffit d'une volonté, ou il suffit d'un homme de caractère, ou il suffit d'un peuple qui se réveille et qui s'insurge pour que le cours de l'histoire se renverse.
L'homme de caractère, on peut l'influencer. Quand Karine parlait justement de votre rôle auprès de certains présidents de la République, on ne peut pas ne pas penser à Nicolas Sarkozy et du rôle que vous avez joué à ses côtés pour l'alerter justement sur ce qui était en train de se passer en Libye. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, que vous êtes responsable du déclenchement d'une guerre? Aussi simplement que ça.
Non, responsable du déclenchement d'une guerre, ce serait me faire trop de crédit et trop d'honneur. Mais en revanche, avoir contribué à l'époque à convaincre Hillary Clinton, il n'y a pas que Sarkozy, j'étais allé voir Hillary Clinton, j'étais allé voir Cameron, j'étais allé voir les parlementaires américains, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé partout où je pouvais crier ce que je savais, ce que j'avais vu, parce que moi je vais voir avec mes yeux et écouter avec mes oreilles sur le terrain. Donc je rentrais de Benghazi, je rentrais de Misrata, la ville assiégée, où il n'y avait pas tant de journalistes que ça. Donc c'est vrai que j'ai fait tout ce que j'ai pu auprès de Sarkozy et d'autres, pour les alerter. Et si j'ai une petite responsabilité dans le fait qu'ils ont lancé cette opération de sauvetage et qu'ils ont continué, bah, tant mieux, je suis très fier de ça.
Alors si vous admettez cette part de responsabilité dans l'intervention de sauvetage, comme vous l'appelez, est-ce que vous acceptez une part de responsabilité dans la faillite qui a suivi l'intervention en Libye ?
J'accepte une part de responsabilité dans tout. Par exemple, le fait qu'il y ait 400 ou 500 000 morts en Syrie, pardon, mais je m'en sens responsable. Je me sens responsable de ne pas avoir su convaincre les dirigeants de mon pays ou les opinions publiques d'autres pays que c'était insupportable.
Alors posons la question différemment.
Le fait qu'en Libye, après la guerre de Libye, on est dit game over, c'est fini, on rentre chez soi, bien sûr que je m'en veux de ne pas avoir su convaincre Sarkozy d'abord et Hollande après, puisque c'est le moment où il y a eu le passage de relais, qu'il fallait continuer, qu'il fallait faire du nation building, qu'une démocratie ça se construit, qu'il fallait construire une école d'administration libyenne formant les cadres de demain. Parce que les gens disent on a détruit l'État libyen. C'est une bêtise, il n'y a jamais eu d'État libyen. Kadhafi, c'était pas un État.
Oui, mais qu'il y a une déstabilisation qui, pour les tenants de la réelle politique, considère que vous êtes des irresponsables ou des droits de l'homiste ou des intellectuels ou des gens qui vont au secours d'un certain nombre de révolutions en finalement, ne voyant pas ce qui peut se passer dans l'après. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Chaque fois que si on se prend la peine de me lire, ce que vous avez fait, c'est ce que je répète dans ce livre. Au contraire, je pense à ça tout le temps. Chaque fois dans ma vie qu'il m'est arrivé de dire que, au nom de l'internationalisme, on pouvait pas se laver les mains de ce qui se passe loin de chez nous, bien sûr que j'ai toujours pris la mesure des effets collatéraux. Bien sûr que je me suis toujours dit, on va faire du bien, mais on va faire un peu de mal. Comment faire pour que la balance soit le mieux équilibrée possible, pour qu'il y ait beaucoup de bien et peu de mal? Je pense à ça tout le temps. Mais je pensais à ça en Bosnie. Je pensais à ça au Bangladesh quand j'avais 23 ans et que l'armée indienne a fini par libérer ce malheureux peuple génocidé. J'y pense tout le temps. Je suis pas un abruti. Je suis pas un ange.
Terrorisme islamiste, vous a peut-être un peu sous-estimé en disant
que... Moi, je l'ai jamais sous-estimé. Non. Moi, j'ai écrit en 94 un livre qui s'appelait La pureté dangereuse et où j'inventais le mot, je crois...
Fasci-islamisme.
Moi, je l'ai jamais sous-estimé. Et je m'en veux, je me sens extrêmement responsable qu'on ait mis 25 ans avant de comprendre qu'en effet, c'était le fascisme de notre temps et qu'il fallait l'aborder avec une force et un sang-froid absolu.
Françoise Fressos, puis Karine Bécard.
Vous pensez vraiment que si on était intervenu en Syrie, on n'en serait pas là aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'aurait pas déclenché quelque chose comme en Libye, finalement?
Mais quelque chose comme en Libye, c'est quoi? C'est le chaos. Mais c'est pas cette espèce de rivière de sang qui est devenue la Syrie. C'est pas ce pays qui a été, encore une fois, vidangé, comme je veux même pas faire filer la métaphore parce que c'est atroce. De toute façon, ça aurait été mieux. Le bilan de la non-intervention en Syrie. Le bilan de la non-intervention au Kurdistan. Moi, le Kurdistan, j'y étais fin septembre dernier. J'ai pris le dernier avion avant le blocus aérien. J'en ai peut-être, allez savoir, pleuré. C'était tellement facile de dire aux Iraniens, on arrête là, vous êtes pas chez vous, bas les pattes.
Parce qu'il y a eu des interventions en Syrie, Bernard-Henri Lévy. Il y a eu les Russes, il y a eu les Turcs, il y a eu les Iraniens.
Oui, il y a eu Daesh, il y a eu tout ça. Et il n'y a pas eu les Occidentaux.
Non.
C'est-à-dire, les Occidentaux. Moi, c'est pas l'Occident en soi. Il n'y a eu personne qui est intervenu pour soutenir les démocrates, parce qu'il y avait des démocrates en Syrie, il y avait des laïcs, il y avait des gens qui croyaient que les femmes et les hommes étaient égaux, avaient des droits égaux, il y avait des gens qui pensaient que les homosexuels méritaient pas d'être jetés depuis le toit des immeubles de Raqqa. Cela, personne n'est venu les soutenir. Et c'est pas Poutine. Poutine s'en fout de ça. Il traite les homosexuels à peu près de la même manière. Et les femmes, il en a à peu près la même image que les islamistes de Daesh. Donc il y a eu personne pour venir défendre les valeurs démocratiques en Syrie. Autrement dit, c'est la thèse de mon livre, il y a d'un côté un pouvoir qui vaut ce qu'il vaut, l'Amérique, mais enfin qui est une puissance démocratique, l'Empire, qui a reculé, qui a fait sécession, qui est dans une situation de ressac, et il y a dans le vide que laisse l'Amérique, cinq puissances qui sont pas des démocrates, qui sont une espèce de vague brune mondiale qui est en train d'occuper l'espace laissé vide. La géopolitique, c'est comme la géographie. Quand un fleuve se retire, il y a autre chose qui gagne à la place.
Pour que nos auditeurs comprennent, ces cinq rois, ce sont la Russie, l'Iran,
la Chine,
l'Arabie Saoudite,
la Turquie, et le maître chanteur Erdogan.
Alors, vous dites aujourd'hui, voilà, ce qui se passe en Syrie, c'est pire finalement que ce qu'on a fait en Libye. Moi, j'aimerais quand même revenir sur la Libye. Vous vous sentez responsable de ce qui s'y est passé? Est-ce que vous vous sentez responsable de cette crise migratoire dans laquelle on est aujourd'hui et qui naît de cette guerre en Libye?
Non. Attendez, la crise migratoire, elle naît. Si vous regardez les chiffres, non. Si vous regardez les chiffres des Nations Unies, elle naît d'abord de la misère dans l'Afrique subsaharienne et elle naît ensuite, majoritairement, dans une énorme proportion, de la guerre de Syrie. C'est de Syrie que viennent
la guerre. De la guerre de Syrie.
Une proportion.
Une proportion importante,
écrasante.
Je suis d'accord,
mais
une proportion
énorme. Quand on regarde la carte du monde, Tripoli,
la Libye,
Damas, la distance est équivalente ou à peu près à Paris-Moscou.
Oui.
Juste pour qu'on prenne la mesure de cette immense distance à parcourir.
Que les ports libyens, les plages libyennes soient le point de départ de tous ces migrants, ça bien sûr. Mais les migrants aujourd'hui, c'est pas des Libyens, c'est des Syriens, c'est des Nigériens, c'est des gens qui fuient l'horrible pauvreté, la désespérance absolue, le changement climatique, etc., etc. C'est ça le phénomène de migration.
Est-ce que l'interventionnisme, malgré tout, est-ce que l'ingérence comme ça dans un pays, est-ce que c'est pas délicat, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle de plus en plus d'opinions publiques n'ont pas envie de voir leur pays?
Il suffirait de pousser l'ingérence un pas plus loin. C'est-à-dire d'aider les Libyens aujourd'hui à fermer leurs plages, à fermer leurs frontières. Oui, bien sûr. Ça, ce serait une ingérence extrêmement simple à mettre en œuvre. Je crois que techniquement, je suis pas un spécialiste, mais ça doit pas être la mer à boire. Il suffirait de faire ça. Mais pour l'instant, et par ailleurs, les vraies sources de cette migration massive, c'est des gens qui fuient la guerre en Syrie et des gens qui fuient la pauvreté en Afrique.
Françoise Fressoz.
Je voudrais quand même revenir à la thèse centrale de votre livre sur le retrait de l'Empire américain et cette idée qu'au fond, Jefferson, lui, était lecteur de Virgile, qu'il avait dans la tête cette épopée d'aînés qui va réinventer Troie à Rome. Et ça s'est cassé. Qu'est-ce qui fait que cette tradition, brusquement, s'est cassée?
Voilà, parce que ça, en effet, je crois que c'est une chose que j'ai... Un jour, j'ai découvert une chose très simple. J'ai regardé un billet un dollar... Et je me suis aperçu que sur le dollar, il y avait 3 sur un billet qu'on a tous quand on va si on va aux États-Unis. Il y a 3 citations de Virgile. Il y a 3 vers sur le billet américain, le billet de réserve mondiale, je sais pas comment on appelle ça. Il y a 3 vers de Virgile. Je suis quand même bizarre que sur le dollar, il y ait 3 vers de Virgile. Pourquoi? J'ai un peu creusé. J'ai découvert que les pères fondateurs de l'Amérique, c'était des gens qui se prenaient pour aînés. Aînés, c'est qui? C'est le survivant de la guerre de Troie, quand Troie est en flammes. Il fuit Troie avec son papa sur le dos qui s'appelle Anchise. Il traverse les océans, il arrive aux portes de l'enfer et il va fonder une nouvelle ville qui va devenir un grand empire qui s'appelle Rome. Ça, c'est aîné, il fonde Rome.
Sur une terre inconnue et mystérieuse.
Sur une terre inconnue, mystérieuse, moyennant quelques massacres au passage, etc. L'horreur de l'histoire. Les gens qui fondent l'Amérique, c'est des gens qui, au XVIIe siècle, se disent « on est dans la même situation ». La nouvelle Troie, c'est-à-dire l'Europe, les descendants de l'Empire romain, sont en flammes. C'est pas les mêmes flammes, c'est les flammes de l'intolérance, c'est les flammes des guerres de religion, c'est les flammes de la violence, etc. Donc on va, comme aîné, on va prendre les dieux lards de l'Europe, le meilleur de l'Europe, et on va aller le planter, ce meilleur, en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire en Amérique. Donc les pères fondateurs, deuxième découverte que j'ai faite, peut-être vous le savez, mais c'est des gens qui se prenaient pour aînés, qui savaient Virgile par cœur, et qui avaient l'idée qu'ils allaient refaire une nouvelle Europe plus belle encore, plus européenne, plus démocratique, plus droit de l'homme, plus laïque, plus etc. que l'autre. Voilà. Et puis, cette histoire-là, elle dure, en effet, Jefferson, et bien au-delà. Elle dure jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à l'invention du grand sceau américain, la devise américaine. La devise américaine, jusqu'en 1956, je crois, c'était là aussi un vers de Virgile. Et pluribus unum, ça veut dire avec plein de gens, avec des gens d'origines diverses, on fait une nation.
Puis une autre citation a pris la place.
Une autre citation, in God we trust. Voilà. Donc c'est là que ça se passe. C'est la bascule, elle est, je crois que c'est, il me semble
1956, c'est ce que vous dites dans votre livre.
C'est ce que, voilà. La bascule est là. Alors qu'est-ce qui se passe pour qu'on passe d'un vers de Virgile à cette phrase-là, en de mauvais américains, in God we trust. Voilà. Alors, ça, c'est un peu ce que j'essaie de démontrer. Il se passe d'abord que l'Amérique tourne le dos au reste du monde. Il se passe que l'Amérique commence à regarder encore plus à l'ouest, c'est-à-dire finalement très loin de l'Europe. Il se passe la naissance des églises
néo-évangéliques.
Le début du commencement des églises néo-évangéliques américaines qui rompent avec le christianisme européen. Et il se passe tout ça à la fois. Voilà. Si on cherche les racines métaphysiques ou religieuses, ce qui revient au même de toute cette affaire, c'est ça le dessin général. Et ça va à Obama et à sa ligne rouge, et ça va à Trump et ses pantalonnades grotesques.
Et la rupture avec l'Europe, comme aîné a rompu avec Troie.
Oui, et c'est l'Europe traitée désormais par les deux derniers présidents américains comme une sorte de Troie qu'on abandonne définitivement à son destin et qu'on laisse se dépatouiller comme elle peut face à Poutine, face aux Iraniens et face aux Chinois.
Oui. Nathalie Saint-Cric,
vous parlez dans votre livre aussi de fameux grains de sable qui peut changer, que vous espérez, qui pourrait changer l'orientation de l'histoire. Là, vous parlez des leaders. Vous avez parlé de Trump, vous parlez d'Obama, vous parlez d'Orgel. Qu'est-ce que vous pensez des opinions? Qu'est-ce qui nous manque? Vous parlez de l'empire du rien en parlant de l'Occident. En quoi on est ramolli? En quoi on est au-dessous de tout? Et c'est pas simplement une histoire de leader. C'est probablement une histoire d'opinion aussi. Comment vous expliquez ça? Et puis, est-ce qu'il y a un espoir derrière? Devant, pardon.
Bernard-Henri Lévy.
Un espoir, j'en suis sûr. Je ne serai pas là et je continuerai pas à crapahuter et à me casser la santé en écrivant des livres. Si je croyais pas qu'il y avait un espoir, je ferais autre chose.
Ça, vous avez l'air en bonne forme. Oui, ça a l'air de vous réussir.
Oui, parce que j'ai une bonne santé. Mais j'écrirais des romans d'amour si je pensais qu'il n'y avait pas d'espoir.
Alors là, c'est pas exactement le cas. L'Empire du Rien, c'est...
Voilà.
C'est des gens, ça. Qu'est-ce qu'on est devenu?
L'Empire du Rien, oui, c'est... Alors, il y a un phénomène nouveau aussi, qui vient d'Amérique, mais qui a gagné l'Europe et qui a gagné le monde. C'est ce système que j'appelle le bantamisme général. En gros, Internet, les réseaux sociaux et les GAFA, qui ont inventé quelque chose de terrible, qui ont inventé un contrat social nouveau. Le vieux contrat social, 17e, 18e siècle, hein, traditionnel, enfin, en gros, que ce Hobbes et Rousseau, c'était... chaque citoyen disait « je te donne un peu de ma liberté, mais tu me donnes la sécurité ». Bien. Aujourd'hui, il y a un contrat complètement inédit où chaque citoyen du monde occidental dit « je te donne le droit de me piller mes données personnelles, je te donne le droit de me surveiller à tout instant, je te donne le droit de faire du pognon avec mes goûts et mes désirs, je te donne le droit de décider ce que je vais désirer demain. Hein, j'achète aujourd'hui l'Empire et les Cinq Croix, mais alors demain tu vas me fourguer le prochain livre de Finkielkraut ou de Consconville. »
Ça parle ensemble.
Hein. Ça parle ensemble. Bien, ça, chaque citoyen français aujourd'hui a donné à cette espèce de d'état hors état que sont les GAFA, tous ces droits-là, c'est-à-dire un droit de souveraineté extrême sur
vous-même d'ailleurs, en échange de quoi ? Puisque vous avez malgré tout ouvert un compte Facebook, Twitter, Instagram.
En échange de quoi ? En échange, et c'est ça l'aspect diabolique de l'époque et du système du nouveau contrat social qui a été inventé, en échange du droit pour chacun d'entre nous d'aller regarder dans les secrets du voisin. Le vrai deal du 21e siècle, c'est les monstres froids, mettons, nous disent on a le droit de regarder ce qui se passe dans votre vie, dans votre intimité, mais en échange, on vous donne le droit d'aller voir dans notre intimité à nous, les grands de ce monde, et dans l'intimité de vos voisins les plus immédiats.
Et donc vous n'avez pas résisté non plus.
Pas résisté non plus parce que je crois qu'on va pas contre son temps, qu'il faut se battre avec les armes de son époque. Et en effet, ça fait partie des armes qu'il faut un petit peu maîtriser, même si j'aime pas ça, des
comptes. Quand il y a une vidéo qui est en Iran ou quand il y a une vidéo en Chine, alors la Chine c'est contrôlé, mais quand c'est aussi un outil de libération et de propagation d'un certain nombre de thèses,
c'est les deux.
Ça l'emporte peut-être un peu.
C'est extrêmement important. Quand on fait, je ne sais plus quel est cet acteur qui a organisé en 24 heures une collecte formidable pour les Rohingyas de Birmanie, c'est d'aller entre les damnés.
Omar
Sy, voilà, dont personne ne parle. Ben, il a fait ça en 24 heures avec sa gloire et la sympathie qu'il suscite et avec l'aide des réseaux sociaux. Donc, bien entendu, c'est les deux. Mais les opinions publiques d'aujourd'hui, elles sont formatées ou amollies par ça. Voilà, par ce contrat social nouveau, cette espèce de nouvel opium des peuples que j'essaie de décrire en effet dans le bouquin.
Bernard-Henri Lévy est l'invité de Questions politiques ce dimanche.
France Inter, Questions politiques.
Question de Karine Bécard.
Je voudrais parler de l'antisémitisme. On en parlait un tout petit peu au début de cette émission. On a refusé de voir la montée de l'antisémitisme en France. Selon vous, pourquoi ?
Ben, on a refusé. On refuse toujours de le voir, en vérité, parce que on a toujours les yeux fixés sur le visage ancien, et par conséquent, on voit pas le visage nouveau. Hein, c'est comme les côté l'imaginot. Hein.
Donc, enfin, qui ne le voit pas ? Parce que c'est vrai que c'est un discours qui s'est imposé dans l'espace public, mais il est là, l'antisémitisme, il est visible.
Depuis 25 ans, depuis 30 ans,
mais en gros, si vous voulez, une grande partie... Oui, d'abord, beaucoup de gens l'ont vu. Mais enfin, ceux qui ne le voyaient pas, c'est quoi ? C'est pas des gens qui étaient forcément... qui s'étaient crevés les yeux. C'est des gens qui s'apprêtaient toujours à livrer la bataille d'hier et non pas celle de demain. En substance... On attendait l'antisémitisme, les résurgences de l'antisémitisme chrétien ou de l'antisémitisme raciste ou de l'antisémitisme païen d'autrefois ou voltairien. Celui-là, je pense qu'il est discrédité, quasiment mort et qu'il n'existe plus qu'aux marges. Et puis il y a un autre antisémitisme qui était en train de monter et qu'on ne voulait pas voir, c'était l'antisémitisme d'origine comme constituant de l'islamisme radical. Celui-là, on ne voulait pas le voir. parce qu'il venait de quartiers déshérités et qu'on a du mal à penser que des déshérités, des humiliés puissent à leur tour haïr, brandir l'humiliation comme une arme suprême et se conduire comme des salauds, et puis parce que tout simplement il n'était pas repéré dans les radars. Donc ça c'est l'histoire éternelle. Bon, enfin, il y a des gens quand même qui depuis...
C'est pas la République qui a baissé les bras selon vous ?
La grande différence, vous savez, quand on regarde, ça aussi c'est quelque chose que j'essaie de remettre les pendules à l'heure là-dessus dans le livre aussi, parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit sur ces histoires d'antisémitisme. La grande différence avec les années 30, il y a deux différences entre aujourd'hui et les années 30. Il y a deux différences. Mm-hmm. Première différence, qui est au débit de notre époque, c'est que dans les années 30, on tuait pas les Juifs dans les rues de Paris ou dans leur appartement. On kidnappait pas Ilan Halimi. On ne poignardait pas Mireille Knoll et on ne défenestrait pas Sarah Halimi. Donc dans les années 30, d'une certaine manière, on fait pire aujourd'hui. Mais en revanche, la différence heureuse, c'est que la République, comme vous dites, se tient bien aujourd'hui, alors qu'elle se tenait mal dans les années 30. Est-ce que vous savez, je le rappelle aussi, en 1936... L'Assemblée, le Parlement du Front Populaire, quand il élit son président, le De Rugy de l'époque, président de l'Assemblée nationale, il y a deux candidats.
Pardon.
L'un, c'est un grand monsieur, un grand républicain, qui est Édouard Herriot. L'autre, c'est le futur commissaire aux affaires juives de Vichy. Je crois que c'est Xavier Vallat ou Darquier de Pellepoix, mais je crois que c'est Xavier Vallat. Il est battu, mais il est battu de justesse. Donc vous vous rendez compte, il y avait 150-160 députés en 1936 dans l'Assemblée du Front Populaire qui étaient prêts à élire comme leur président un abject antisémite nazi. Ça, aujourd'hui, c'est impensable. Et quand Manuel Valls, puisqu'on en parlait tout à l'heure, décide d'interdire les meetings de Dieudonné, tout le monde est au rendez-vous. Il n'y a pas un maire de France, de Estrosi à Juppé, en passant par la gauche, l'extrême gauche, qui conteste sa décision. Donc ça, c'est quand même le bon côté du verre, le côté à moitié plein, c'est que les institutions républicaines tiennent bon. Et quand Emmanuel Macron va se recueillir le jour de ses obsèques sur la tombe de Mireille Knoll, pardonnez-moi, mais ça veut dire là aussi que la République ne transige pas.
Oui, elle se tient bien, mais il y a quand même un débat sur est-ce que la riposte est suffisamment forte, et on a un gros débat aujourd'hui sur la laïcité. Vous citez à plusieurs reprises Manuel Valls. Est-ce que vous pensez, comme Manuel Valls, qu'il faut en faire beaucoup plus, qu'il faut par exemple interdire le salafisme, qu'il faut avoir une laïcité beaucoup plus offensive ?
Bernard-Henri Lévy.
Interdire le salafisme, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On n'interdit pas une idée, malheureusement. On ne peut pas interdire. Malheureusement, parce qu'en effet, le salafisme, c'est évidemment l'un des terreaux. Et ce n'est pas vrai que le salafisme, ce serait la version soft d'un islamisme terroriste. Mais on ne peut pas interdire le salafisme. En revanche, expulser, s'ils ont une autre nationalité, les prêcheurs de haine, les imams qui appellent à multiplier les Mireille Knoll, oui, et avec beaucoup plus de rapidité, certainement, ne pas accepter des tariqs ramadan. On a trop longtemps toléré les prêches de ramadan. Oui, la laïcité, elle doit être là aussi intransigeante.
Alors justement, est-ce que la gauche n'a pas une responsabilité à force de ne pas vouloir, je cite, stigmatiser l'islam? Il y a un très beau livre de Jean Birnbaum qui explique ça en disant, qui s'appelle Un silence religieux, en disant en gros que comme la gauche avait une espèce de complexe postcolonial, elle n'a pas voulu voir les choses venir et qu'elle s'est tue en gros. Alors ma première question, c'est est-ce que vous ne croyez pas que ce refus de voir la réalité en face, la gauche en est responsable? Première question. Deuxièmement, est-ce que vous acceptez la notion d'intégrisme laïque? On entend, comme le disait Françoise, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, en gros, mettre face à face un intégrisme islamiste et un intégrisme laïque, comme si les laïques...
Parler d'intégrisme laïque, c'est dégueulasse.
On l'a entendu, hein, compris dans la préau placé.
Ça, c'est justement une des formes de l'hystérie sémantique d'aujourd'hui. C'est vraiment faire tout ce qu'on peut pour que les gens n'y comprennent plus rien. L'intégrisme, c'est l'intégrisme religieux, c'est l'intégrisme des fascistes dans toutes leurs versions. La laïcité peut pas être intégriste. La laïcité, ça veut dire quoi?
Non,
ça,
mais il y a une xénophobie qui est justifiée au nom de la laïcité.
Mais on peut justifier n'importe quoi au nom de n'importe quoi. Mais la laïcité, ça veut dire que toutes les croyances sont également respectables à condition qu'elle demeure dans la sphère privée, à condition que ça demeure dans la tête de chacun, et à condition qu'on ait le droit de les embrasser et qu'on ait le droit de les quitter. C'est ça la laïcité. On a le droit d'entrer dans une religion et on a le droit d'en sortir. Et l'État n'a pas à s'en mêler. Ça, il n'y a pas à être, radical ou intégriste ou pas athée. C'est ça la laïcité.
Non, mais la définition est parfaite. Mais pour soutenir Ali, vous voyez bien l'utilisation parfois qu'en fait, voire régulièrement qu'en fait Marine Le Pen, pour effectivement dénoncer en miroir, en effet de miroir, les communautés arabes, etc. Elle est utilisée aujourd'hui notre laïcité.
Marine Le Pen, elle utilise tout. Ça s'appelle la base politique et elle fait usage même du fait qu'il fasse midi qu'il fasse jour à midi, elle va l'utiliser comme un argument politique. Elle va dire ça. Elle va dire voyez bien, il fait jour et il est midi, je l'ai toujours dit. Donc voilà, ça n'est pas un argument. La laïcité, c'est une immense idée qui apporte de la paix, qui apporte de la concorde, qui fait que le monde est un peu moins irrespirable, un peu moins violent. On va pas le laisser prendre en otage, ce mot-là, par des factieux ou par des voyous.
Pour ne pas le reprendre en otage, est-ce que Emmanuel Macron, le président, doit redéfinir un peu
ce qu'est la laïcité? Est-ce qu'il y a une responsabilité de la gauche dans ce refus de...
Il y a une responsabilité de la gauche et une responsabilité de la droite, de tout le monde. Vous savez, au moment des émeutes des banlieues de 2007, de novembre 2005, les émeutes dans les banlieues en 2005, responsabilité de la droite, qui s'est dit, pour maintenir l'ordre, on va appeler les imams à la rescousse. Et même les imams les plus radicaux, c'est pas grave, ils vont faire la police à notre place. Ça, c'était la droite, c'était à l'époque Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Responsabilité de la gauche, on va pas se faire encore taper sur le doigt par néocolonialisme, donc on dit rien. Il y en a des deux côtés. Après, entre les deux, il y a quoi? Il y a le courage de la vérité. Il y a le courage de dire les choses. Georges Massoussan dans les territoires perdus de la République, d'autres intellectuels.
Et Emmanuel Macron, pour reprendre la question de mes deux amis et collègues et consoeurs, est-ce qu'Emmanuel Macron, on n'aurait pas nous annoncé un discours sur la laïcité, un grand discours définissant, est-ce que ça manque?
Il le fera, mais ça manque toujours. Rappeler les grands principes, les rafraîchir, c'est essentiel. Aujourd'hui, l'islamisme radical, c'est deux choses. Il y a deux erreurs. Première erreur, c'est de dire rien à voir avec l'islam. Évidemment que ça a à voir avec l'islam. Évidemment qu'il faut prendre au sérieux les islamistes quand ils se réclament du Coran. Ils s'en réclament mal, ils s'en réclament d'une manière atroce, mais ils s'en réclament. La deuxième erreur, c'est de ne pas voir que c'est une idéologie politique et que c'est du fascisme. Et moi, ma théorie dans ce livre, où je rappelle tout le passé nazi de toute une partie du monde arabe,
de l'Iran,
avec quelques exceptions, notamment celle de Mohamed V, sultan du Maroc,
le sultan du Maroc,
sous Vichy,
bien sûr. Mais il y a cette dimension-là. Un des grands problèmes de l'islam radical, c'est que c'est la dernière perle noire lâchée par le nazisme. Le nazisme, il a été le deuil en a été fait partout dans le monde. Il a été fait en Allemagne.
Mais ça, c'est paradoxal, Bernard-Henri Lévy. On n'a plus le temps, malheureusement, d'en parler. Mais c'est vrai que le nazisme est une histoire européenne et vous faites comme si c'était quelque chose qui était né dans le monde arabe et musulman.
Non, c'est une histoire mondiale. C'est une histoire japonaise. C'est une histoire irakienne.
Mais c'est surtout une histoire européenne.
C'est
l'un des sujets sur lequel, à mon avis, votre livre va susciter le débat.
Non, les frères musulmans se fondent dans les années 20 comme officiellement une branche arabe de cette grande révolution mondiale qui était le nazisme. Bien sûr que ça part de l'Allemagne, mais c'était un mouvement d'immense ampleur qui a suscité des adhésions et des sympathies partout dans le monde. Et Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, fondateur des Frères musulmans, y pensait « je vais fabriquer un nazisme arabe ». Le Shah d'Iran, le premier Shah d'Iran, quand il décide, ça c'est une histoire que je révèle dans ce livre qui n'est pas connu, je crois. En 1935, il décide de changer le nom de son pays. Il dit on va plus s'appeler la Perse, on va s'appeler l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il dit Iran, ça veut dire pays des Aryens. Et on va être les bons copains des Allemands pour fabriquer à deux, les Allemands et les Iraniens, le nazisme de demain.
Il reste vraiment plus de temps, Françoise.
Est-ce qu'on peut croire à une Europe des Lumières ou c'est fini?
Mais bien sûr que c'est pas fini. C'est jamais fini. Je vous répète, ni Hegel, ni Spengler. C'est jamais le bien garanti et c'est jamais le déclin irréversible.
C'est terminé. Moi, j'y crois. Le jeune Bernard-Henri Lévy, il était étudiant en Hippocagne en 1968. Et qu'est-ce qu'il retient comme slogan, votre slogan préféré de cette période?
Le « Nous sommes tous des Juifs allemands ». en soutien à Danny Cohn-Bendit.
Merci d'avoir été notre invité. Bon dimanche. L'Empire et les Cinq Rois, c'est publié chez Grasset. Merci à toutes les trois. Merci à Outichra, Niti et Alexandre Gilardi qui ont préparé cette émission. Je vous retrouve juste après le journal pour le grand face-à-face de France Inter. Au revoir.